Vous êtes sur RTL.
Mangez mieux.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Benjamin Sportoujou, vous recevez donc ce matin Karine Lacombe, la chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine à Paris.
Bonjour Karine Lacombe.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Le Premier ministre nous a donc dit hier, on met sous observation les 20 départements les plus exposés au virus. Et s'il n'y a pas de baisse, eh bien on prend des mesures plus drastiques comme à Nice et à Dunkerque. Et vous n'êtes pas, toujours pas convaincue, Karine Lacombe. C'est pas la bonne stratégie.
Oui, on a l'impression que c'est vraiment reculer pour mieux sauter. Enfin, les chiffres vont dans le sens de l'augmentation croissante, même si on est effectivement, il y a quelques semaines, sur un plateau haut, qui était plutôt un plateau ascendant. Et on voit bien qu'on a un décrochage que l'on attendait, hein, parce qu'à partir du moment où le fameux variant anglais devient majoritaire, c'est vraiment une histoire mathématique assez simple. Un variant qui se multiplie de façon beaucoup plus rapide par rapport à la souche traditionnelle, à partir du moment où il devient dominant, les infections reprennent et augmentent de façon très rapide. Donc c'est ce qu'on est en train de voir actuellement.
Mais une forme d'irresponsabilité pour vous, c'est quoi? Comment vous expliquez cette prise de position?
Non, loin de moi de juger la décision qui est prise, parce que la décision qui est prise ne se base pas uniquement sur des faits sanitaires, mais également sur des contraintes économiques, des contraintes sociales. On voit bien que des mesures aussi drastiques qu'un confinement pourraient être pas bien accepté par la population. Et je pense que le fait de se retrouver au bord du précipice et de se dire, ben voilà, maintenant on ne peut plus faire autrement, doit certainement guider les décisions, même si nous, les scientifiques, on aurait préféré que ce genre de décision soit prise à un moment où on pouvait espérer avoir une action rapide sur l'épidémie.
Alors je disais justement, en vous présentant, que vous défendiez désormais avec ardeur la stratégie du zéro Covid, c'est-à-dire on met sous cloche pendant un certain nombre de semaines et on teste massivement, c'est ça le zéro Covid? Ça veut dire un confinement?
Oui, alors le zéro Covid est quand même constitué de plusieurs volets. C'est effectivement un changement de paradigme par rapport à ce que l'on a fait jusqu'à maintenant. Parce que ce que l'on a fait jusqu'à maintenant, c'était d'observer ce qui se passe et à partir du moment où on ne peut plus faire autrement, de prendre des décisions qui sont difficiles, sachant que ces décisions-là, finalement, eh bien, impactent de façon plus durable les activités. Mmh. Alors que le zéro Covid, c'est vraiment se dire il faut viser une diminution extrêmement drastique des cas et ensuite avoir des actions derrière pour maintenir ce nombre de cas très bas. Donc le zéro Covid, c'est actuellement de imposer, comme vous dites, une mise sous cloche qu'on espère pas très longue, de quelques semaines, mais assez drastique. Et dès que l'on sort de cette mise sous cloche, mettre en place les moyens que l'on a actuellement à notre disposition, que l'on n'avait pas l'année dernière, mais que l'on a maintenant, qui sont la vaccination, donc vacciner vraiment en masse, qui sont également le fameux dépistage, traçage, isolement, que l'on ne peut pas faire maintenant, parce qu'on a beaucoup trop de cas qui se transmettent. Vraiment insister sur le télétravail, peut-être réfléchir sur des périodes courtes sur la fermeture des écoles. Parce qu'effectivement, le variant anglais est un virus qui se transmet de façon très facile entre toutes les générations, et en particulier chez les gens jeunes.
Alors, quand vous entendez justement l'adjoint à la maire de Paris, Emmanuel Grégoire, qui dit vouloir proposer au gouvernement un confinement de 3 semaines dans la capitale pour ensuite tout rouvrir, écoutez, quand on entend ça, on se dit, bon, ça semble être un peu la solution miracle qu'on nous présente tout de suite, mais finalement assez illusoire. Est-ce que vous dites oui, ça peut marcher 3 semaines?
Alors, est-ce que 3 semaines est suffisant? Ça, je ne sais pas. En tout cas, pour une stratégie zéro Covid, c'est évident qu'il faudrait aller dans cette direction-là. J'ai été très surprise de ce qu'a dit la maire de Paris, mais en même temps, elle est conseillée par un groupe qui l'entoure et pas que de scientifiques d'ailleurs, des scientifiques, des économistes, des sociologues. Et c'est manifestement la conclusion de ce groupe de réflexion. Et je trouve que c'est une bonne... On irait dans la bonne direction.
Mais est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait un problème d'acceptabilité, d'adhésion? Karine Lacombe, ceux qui nous écoutent se disent, oh là, ça fait un an qu'on est confiné, qu'on nous demande des efforts. Et puis il y a la vaccination. On pensait que c'était notre planche de salut. Et là, on nous dit, Vous nous dites, il faut reconfiner.
Alors attention, ça ne fait pas un an qu'on est confiné. On a eu deux confinements qui étaient chacun d'une durée différente, avec des modalités différentes. Il y a eu les couvre-feux et on voit bien que malgré le couvre-feu, particulièrement ces dernières semaines, que c'est une stratégie qui ne marche plus. C'est une stratégie qui ne marche plus parce qu'on est en train de changer d'épidémie. On avait jusqu'à présent une souche originelle que l'on commençait à bien connaître et puis des variants ont émergé, en particulier le variant anglais qui ne se transmet plus, qui a peut-être une pathogénicité, c'est-à-dire qu'il entraîne une maladie qui peut être plus sévère. Donc on est en train de changer d'épidémie. Et quand on change d'épidémie comme ça, quand on voit que les mesures antérieures de restriction ne marchent plus, eh bien il faut changer également. Il faut que nous, on s'adapte et qu'on essaie justement d'être plus proactif, d'où cette stratégie de zéro Covid.
Oui, mais en même temps, on a cette vaccination. Le Premier ministre nous dit elle progresse. On va avoir 4 millions de personnes vaccinées au moins avec une première dose d'ici la fin du mois. On s'est dit que ça allait marcher, que c'était ça maintenant le remède. Vous dites non, ça ne suffit pas.
Alors, la vaccination, ça marche. Attention, la vaccination, ça marche.
Mais pas forcément contre des nouveaux variants ou ceux à venir.
Absolument. Si, la vaccination marche contre les nouveaux variants, alors peut-être moins contre certains variants, mais pour les variants majoritaires actuellement en France, ça marche. Le problème, c'est que l'implémentation de la vaccination est trop lente. Elle est trop lente pour plein de raisons qui ne tiennent pas forcément à la stratégie gouvernementale. Ça tient à des raisons qui touchent la stratégie globale de l'Union européenne, de la mise à disposition des vaccins, également de la fabrication des vaccins, de l'homologation, etc. On a beaucoup de vaccins qui arrivent. Sur mars-avril, on va être inondé de vaccins. En attendant, on est actuellement fin février, on voit qu'on a une tension énorme qui monte sur les hôpitaux, en hospitalisation traditionnelle, en médecine de ville, et que la mortalité augmente également. Donc c'est des facteurs qu'il faut prendre en compte et on ne peut pas attendre avril pour agir.
C'est-à-dire que vous nous dites qu'il faut reconfiner, quoi. Comme en mars, dans toute la France ou certaines zones ?
Alors je pense qu'on est quand même dans des situations géographiques qui sont très différentes, par exemple entre la Bretagne et entre l'Île-de-France. Donc on peut probablement avoir des stratégies qui sont adaptées au contexte local.
C'est-à-dire par deux zones. On aurait des zones rouges,
par des zones
vertes.
Exactement. Donc ce qui est promu dans le zéro Covid, c'est exactement ça. Ce sont des zones rouges, des zones oranges, des zones vertes. Et des zones vertes, justement, où on peut se permettre de retourner à une vie normale. Et c'est ce que l'on attend tous. Et effectivement, on ne comprend pas, par exemple, pourquoi dans certaines zones, alors que l'incidence est très faible, eh bien, on est soumis au couvre-feu et où tout est fermé, alors que dans d'autres zones, on est avec une incidence très élevée et on est dans la même situation en matière de restriction.
Vous regrettez que le Conseil scientifique ne s'empare pas de cette option zéro Covid, le Conseil scientifique qui propose lui un nouveau contrat social. Alors c'est tout le contraire de ce que vous dites, les moins vulnérables sont prudents mais continuent à vivre et nos aînés, eh bien, ils s'auto-confinent.
En fait, nos aînés s'auto-confinent déjà depuis longtemps. Il y a vraiment, la plupart d'entre eux ont une vie qui est complètement confinée, même si on n'a actuellement qu'un couvre-feu qui est en place. Donc non, c'est une stratégie qui n'est pas la plus efficace.
Donc vous n'êtes pas d'accord avec le Conseil scientifique. Enfin, on est un peu déboussolés, on a l'impression que tout le monde... Vous comprenez que là, en fait, chacun, aujourd'hui, chaque scientifique, à un moment donné, eh bien, il y avait une forme de consensus. Maintenant, même entre vous, il n'y a plus de consensus. Donc on est perdu et le gouvernement ne vous écoute plus.
Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Le gouvernement prend les éléments là où il en a besoin. Et après, quand il y a des décisions politiques à prendre, c'est son rôle de trancher sur le plan politique. Les scientifiques, le conseil scientifique ne sont là que pour mettre à disposition du gouvernement des informations.
Mais pour l'instant, ça veut dire quoi ? C'est que l'économie qui prime sur le sanitaire, c'est ça qui vous inquiète un peu aujourd'hui ?
Il y a une balance qui est difficile à faire entre l'économique, le social et le sanitaire. Nous, les scientifiques, on se positionne principalement sur le sanitaire. Vous savez que dans le conseil scientifique, il y a des sociologues. Il y a également des économistes qui se prononcent maintenant en particulier sur le zéro Covid. Donc, ce n'est pas que des décisions sanitaires. Il y a aussi derrière une réflexion économique et sociologique en cours.
Alors, le président de la République, hier, Emmanuel Macron, a annoncé qu'il travaillait à la mise en place d'un pass sanitaire, alors qui ne sera pas un passeport vaccinal, en vue de la réouverture des lieux culturels et des restaurants fermés. C'est-à-dire que, eh bien, on pourra y aller si on a fait un test, par exemple, pas forcément si on était vacciné. Est-ce que vous avez l'impression que, voilà, on est déjà en train de se mettre dans une position de post-crise, alors qu'on est encore dedans et qu'on ne veut pas forcément l'accepter ? Qu'il y a une forme de déni ?
Non, je ne crois pas qu'il soit une forme de déni. Je pense qu'on essaie de chercher des solutions qui nous permettraient de sortir de la crise et rapidement. On peut se poser la question de l'intérêt du passeport sanitaire, du pass santé, de la preuve de vaccination, enfin de tout ce que vous voulez, le carnet de vaccination, etc. On s'est mis finalement beaucoup de tabous jusqu'à présent. On a beaucoup parlé de l'atteinte aux libertés individuelles. Et en fait, on voit que, par exemple, des pays comme donc les pays asiatiques, c'est sûr, mais également Israël maintenant. On voit des pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, beaucoup de pays qui ont mis en place des stratégies zéro Covid, et même des pays qui sont un peu plus proches de chez nous, par exemple le Danemark. Le Danemark n'a pas hésité à confiner.
Mais c'est souvent des îles, j'allais vous dire, ou des zones. L'Islande l'a fait, et puis des pays où les libertés ne sont pas forcément respectées. C'est ça la stratégie de zéro Covid aussi.
C'est sûr que c'est beaucoup plus facile quand on est dans une île, d'isoler l'île de façon à faire en sorte que le virus ne rentre pas. Mais probablement qu'il y a là aussi un équilibre à trouver entre... Quel compromis faut-il faire pour un retour à la vie normale ? Et comment, dans ce contexte-là, peut-on travailler ensemble à ce que les atteintes que l'on a à notre liberté individuelle, finalement, soient pour le bien commun ? On voit bien que depuis un an, des atteintes à la liberté individuelle, on en a énormément. On en a énormément.
Donc il faut les accepter, quelque part.
Il faut les accepter. Je crois que c'est une réflexion collective qu'on a à mener. Qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher pour aller retourner vers une vie normale dans laquelle on retrouvera ces libertés individuelles qu'à un moment donné, on aura diminué.
Bon, on vous sent quand même un peu inquiète ou un peu, je ne sais pas comment vous qualifier ce matin, mais quel est votre état d'esprit ? Est-ce que vous dites, bon, de toute façon, si on n'est pas écouté sur le zéro Covid, on va encore se traîner ce virus pendant des mois ? Dans la tribune du Monde que vous signez, vous dites qu'on ne s'en sortira peut-être pas avant la fin de l'année 2021.
C'est vrai qu'on avait beaucoup d'espoir pour sortir de ce marasme économique, social, sanitaire avant l'été. Je suis dubitative devant la lenteur de l'accès à la vaccination. Et effectivement, il y a un paramètre dans l'équation que l'on n'avait pas forcément pris en compte quand on avait parlé de la sortie de crise pour l'été, c'était l'émergence de ces variants qui sont en particulier plus contagieux. Et probablement que ça va, si on continue avec les mesures actuelles dont on ne voit plus vraiment l'efficacité, oui, ça risque de continuer plus longtemps que prévu.
C'est-à-dire même en 2022, vous pensez...
Il faut changer de mode de pensée.
Oui, on n'est plus dans le bon mode. On s'adapte pas, en fait. On se dit qu'on
Trop tard, en fait. On s'adapte trop tard.
Et en même temps, vous nous dites, en 2022, on aura peut-être encore ce virus. Mais il y a des traitements aussi qui arrivent, les traitements monoclonaux. Le président nous en parle un peu peut-être comme si c'était un peu remède miracle.
Alors, non, je pense que c'est un grand mot. Il ne faut surtout pas penser que c'est un remède miracle. Pour l'instant, on a des données qui peuvent suggérer que certains anticorps monoclonaux associés entre eux, jamais en monothérapie, mais associés entre eux, pourra avoir un impact sur la quantité de virus qui se transmet quand c'est donné très tôt. Mais ce n'est certainement pas un remède miracle. Et en tout cas, on ne peut pas s'appuyer sur les anticorps monoclonaux pour espérer infléchir l'épidémie. Absolument pas.
Donc ce matin, vous appelez nos politiques à penser différemment et à la stratégie zéro Covid.
Absolument.
Merci beaucoup, Karine Lacombe. Bon courage à vous. Bonne journée.
Le variant anglais change la donne, vient de nous dire Karine Lacombe. Il faut nous mettre sous cloche.